Allô Michael?
Ouais, salut, tu m'entends bien là?
Je t'entends bien, allô Fabrice?
Salut Rudy, ça va?
Ça va. Bon alors bienvenue pour ce nouveau podcast consacré à Michael Gundil encore une fois. Donc encore une fois, pas mal de questions. Donc on va commencer, donc la dernière fois qu'on avait fait le podcast, il devait y avoir le Salon de Paris. Donc un petit résumé rapide du Salon de Paris. Qu'est-ce que t'en as pensé Michael pour cette année 2011 de ce salon?
Moi j'aime bien de toute façon... Et par contre, c'est vrai qu'il était beaucoup plus petit que les autres années, quoi. C'est un peu l'année de la crise. On se rendait pas compte parce que avant il y avait deux halls. Et cette année, en fait, il y en avait qu'un réellement. L'autre, il était vide. Donc ils avaient mis tout ce qui était vêtements pour les femmes, fitness, etc. dans le hall muscu. Et le hall muscu faisait la même taille que les autres années, donc beaucoup moins d'exposants.
Ils avaient quand même mis un truc TRX dans le hall fitness.
Ouais, non, mais c'était bidon, ça. C'était un truc pour s'entraîner, c'est tout. C'était pas... Il y avait personne qui vendait comme l'année dernière.
Ah non, c'est bon. Ouais, ouais.
Fabrice?
Il parle avec un tuba dans la bouche.
Ah, on l'entend plus.
Il est mort.
Ouais, mais moi le salon, je l'ai trouvé plus petit que d'habitude.
Bah, il était plus petit, ouais, c'est pas.
Il était plus petit, et même moins de monde, comme on a été le samedi après-midi.
Ouais, enfin, le monde, ça je me rends pas compte, mais ce qu'il y a, là, il y avait quand même le salon en Angleterre en parallèle.
C'est vrai, c'était le British Grand Prix, non, qu'il y avait en même temps, non?
Il y avait ça, plus le salon, ils organisent maintenant un salon à Londres. L'année prochaine, je pense que j'irai, de manière de la vie, il sera intenable l'année prochaine.
Pourquoi?
À cause du, parce qu'ils étaient là pour le, ils s'est aperçu qu'ils étaient là aussi pour le, tu sais, la barre fixe.
Ah, ils sont aussi à Londres.
Ouais, il a regardé sur le site internet et ils sont aussi à Londres. Alors, ça veut dire qu'il est plus fort que les Anglais aussi, mais il veut aller faire une performance à Londres.
Comme ouais, bah, parce que j'ai vu là, il a fait une vidéo au Fibo, c'est ça?
Ouais, enfin, on en a fait deux. Le premier jour, on est tombé sur le truc par hasard. Donc déjà il a battu tout le monde là, mais c'est vrai qu'on était crevés, on a conduit toute la nuit, après on a fait le salon toute la journée, on n'a pas vraiment mangé, puis ouais, il a fait la barre fixe comme ça, donc il a dit le lendemain je reviens, je mange, je dors, et puis il en a fait au moins 10 de plus.
Ah non, c'est ça. Donc ouais, bah pour en revenir au Salon de Paris, il n'y avait pas beaucoup de pros non plus. On a vu quoi? On avait Martinez.
Ben non, parce que les mecs, ils étaient à Londres aussi.
Comme d'habitude, ils s'arrangent pour organiser le Salon de Paris quand il faut pas, quoi.
Non, mais c'est pas trop que Londres tombe au même moment. J'espère que l'année prochaine, ça va pas se chevaucher. Parce que de toute manière, je vais à Londres. Il va être intenable.
Juste pour gagner le concours de traction.
Ouais, ouais, bah là, il veut aller pour l'Arnold, il veut aller en Espagne, alors c'est pas mieux. Et puis il y a aller en bagnole en plus.
Pour l'Arnold, il veut aller en Espagne.
Ouais, ouais, ouais.
Comment ça?
C'est septembre, octobre, début octobre pour l'Arnold Classic, il veut aller. Putain, alors 1600 km, en plus il veut passer par chez Thierry, ça rajoute. Je sais plus combien ça rajoute de. 1700 km, il veut faire en bagnole.
J'ai pas compris, l'Arnold Classic est en Espagne?
Bah, t'es au courant de quoi, toi?
Bah, de rien, c'est pour ça qu'on fait ce podcast.
Ah bon? Ah non, mais ils font l'Arnold Classic Europe en Espagne, une semaine ou quelque chose comme ça pour Olympia.
Ah ok, bah je savais pas, j'avais pas suivi, c'est pour ça que je comprenais pas.
À Madrid.
Et donc pareil, ils font un salon et compagnie.
Ouais, ouais, bah normalement, ouais, c'est le festival, le même festival que Arnold. Donc, compète plus salon à Madrid. Je crois que c'est le 7 ou 8 mars. Septembre, octobre.
Ah, donc. Ah, bah, intéressant, ça faudra en reparler pour voir si on peut faire une sortie groupée avec Super Physique.
Ah, ouais, mais moi je voudrais y aller en avion, pas en bagnole.
Ouais, mais après sur place, faut pouvoir te déplacer, c'est toujours pareil.
Ouais, tu loues une bagnole. Attends, l'avion, t'en as pour 2 heures à peine.
Ah, ça c'est intéressant. Et donc, t'as été au Fibo là, avec Fred, et comment tu l'as trouvé ce coup, cette année?
Fred et Thierry, on était... c'était sympa, parce que l'année dernière, on a eu le nuage. Comment, le nuage du volcan, là. Là, on avait le nuage radioactif, mais ça empêchait personne de se déplacer. Donc, il y avait pas mal de pros. Bah, pas mal de pros, parce qu'il y avait une compète pro aussi. Donc, ça draine toujours plus de monde chez les pros. Donc là, il y avait un maximum de pros pour le FIBO. Il y avait Liprist, c'est la première fois que je le voyais.
Et alors, comment tu l'as trouvé?
Bah, il est petit, il a pas grandi depuis.
Je savais que tu allais dire ça.
Il est sympa, en plus, on a discuté un peu avec lui. Il y a rien à dire, il est sympa.
Ouais, sinon, aussi grand que les autres années, autant de rôles.
C'était plus grand, non, ils ont rajouté pour la muscu, enfin pour ce qui est protéines, muscu, bodybuilding, c'était plus grand cette année, ouais.
Parce que d'habitude, il y avait deux halls, là, il y en avait trois.
Ouais, là, il y en avait trois, ouais. Ils ont fait un troisième en hauteur, et j'ai l'impression qu'ils étaient un peu plus, il y avait plus d'exposants, hein. Enfin, c'est peut-être une impression que j'avais, mais, enfin non, ouais, non, qu'est-ce que je raconte, il y avait un quatrième hall, tu sais, quand on va dans le hall, comment? Quand on va dans le, quand on passe du hall des machines et tout fitness au hall des body,
ouais.
Y a un long couloir là.
Ouais, avec les trucs de biking là.
Ouais, bah là c'était que de la muscu pareil, muscu, protéines, etc. Donc c'était beaucoup plus fourni en prot, en là le salon, je dirais que c'était un tiers du FIBO, c'était presque que des prot et trucs de bodybuilding.
Ouais, donc là ça valait vraiment le coup d'y aller quoi.
Ah bah ouais, c'était sympa. Bah le problème c'est que le vendredi il y a moins de pros, mais il y a moins de monde, mais le vendredi c'était la folie quoi. S'il faut pousser tout le monde pour voir le haut du crâne de Martinez, ça m'intéresse pas trop quoi.
Une prochaine fois tu veux aller plutôt le jeudi?
Je sais pas, le jeudi il y a encore moins de trucs, c'est ça le problème, c'est toujours un compromis. L'idéal c'est le vendredi quand même. Vendredi il y a quand même pas mal de pros, pas trop de monde. Bah, tu vois, par exemple, pour faire le tirage barre fixe, le vendredi, Fred, il est passé tout de suite. Après, l'autre fois, on a attendu au moins une demi-heure, trois quarts d'heure, pour repasser le...
Mais alors, qu'est-ce qu'il a gagné?
Bah, le samedi, il a rien gagné, parce qu'ils n'ont pas, comme ils lui ont dit, tu peux participer, mais, pas officiellement, parce que t'as gagné hier, quoi. Bah, il a gagné, je sais plus combien de kilos de protéines.
C'est, le gainer, la mutant masse, c'est ça qu'il a gagné, non?
Il y a de la ouais aussi, il y a le blouson. Il disait qu'il y a 500 euros de prix, mais je sais pas où ils sont les 500 euros, mais il a gagné plein de trucs. Non, mais il était surtout content de... Il y a qu'un seul mec sur, tu vois, sur l'Arnold, sur Olympia, sur l'Angleterre, ils étaient sûrement dans d'autres, plein d'autres endroits qui ont fait plus que lui au tirage.
Combien il a fait pour rappeler...
Je sais plus, 36, ou parce qu'il y a certaines reps, ils lui ont pas compté. Je sais plus combien, mais il y a un mec qui est arrivé à 40 reps.
Donc c'était le concours, c'était exactement donc traction avec le sac accroché, c'est ça, non?
Ouais, en gros, il y avait 10 kilos de lest au total.
Ok. Donc ça, sinon, pour finir un peu avec l'actualité des pros, qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau des pros?
Il y a quand même la mort de Nubray, qui est quand même...
C'est vrai.
À la fois triste et... manière c'était prévisible aussi, donc
c'est vrai que ça fait un moment qu'on l'avait pas vu dans les salons et...
Ah bah non, il était quand même, c'était quasiment un légume depuis au moins 2 ans, quoi, je crois.
Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié, il avait fait, c'est vrai qu'il était à Boston. Qu'on y pensait plus, ouais.
Ah si, moi j'y pensais, mais ça pouvait pas se terminer autrement que comme ça, quoi. Quand tu te remets pas tout de suite, c'est mort, quoi. C'est le cas de dire. Donc, c'est un peu triste. Un peu triste. Il y a des trucs qui pardonnent pas, quoi.
Et alors, qu'est-ce que tu penses de sa philosophie d'entraînement, Michael? À Serge Nebret. Et ses milliards de séries avec des temps de repos assez courts, des poids...
Ouais, moi, je voyais s'entraîner. Moi, je me souviens, j'étais quand il était revenu au World Gym, il était revenu... Ah, il était assez grassouillet et tout. Putain, il avait séché. Il avait pas dû perdre un centimètre de bras, quoi. Il avait tout remplacé le gras par du muscle. C'était étonnant. Hein. Bah, il s'entraînait pas lourd. Moi, je me souviens, il faisait des curls. Il y avait 2,5 kg sur une barre, disons qu'elle faisait 10. Il y avait 2,5 kg de chaque côté, puis il faisait ses curls comme ça.
et comment on fait pour prendre du bras comme ça?
Je sais pas, mais en attendant. Je me souviens qu'il était quand même assez gras quand il est venu, et je suis sûr qu'il a pas perdu un centimètre. Hein. Il a tout remplacé par du muscle. Hein. Les mecs, ils disent
que le gras se transforme en muscle, Michael.
C'est possible là pour l'occasion. Non, non, mais pour le, là, je suis sûr que. Non, mais c'était étonnant, il y avait beaucoup de mecs qui croyaient qu'il allait jamais revenir, puis il était revenu. Comme en 14, hein.
Et donc, est-ce qu'on peut faire comme lui, nous?
Bah non, je pense pas. Moi, je prends toujours l'allégorie. J'avais une copine qui est, qui est des îles aussi, les mêmes que Nubray, des Antilles. Elle va 5 minutes au soleil, tu vois que elle est, toi, si elle a une bague, une montre, tu vois qu'elle est méga bronzée en dessous au bout de 5 minutes. Moi, au bout de 5 minutes de soleil, j'ai rien du tout. Si je reste 10 minutes, enfin, en bout de 10 minutes, elle est noire, alors que moi, je suis rouge comme une écrevisse. Ah non, mais c'est la génétique, tu peux pas, alors évidemment, avec la mentalité culturiste, tu vas dire, le mec, il prend quelque chose.
Il y a aussi. Mais justement, ce serait quoi la génétique? Alors, ce serait qu'il a plus de fibres lentes que nous, ou hormonalement, il est plus adapté aux séries?
Il y a sûrement plus de fibres et tout. Je sais que ma copine, elle a peut-être fait 10 séries dans toute sa vie, 10 séries de curl. Tu vois, elle faisait une petite série comme ça tous les 6 mois, et elle te contracte le bras, elle fait croire à tout le monde qu'elle fait du fitness, quoi. C'était son grand truc, regarde mon bras. Alors qu'avant, elle avait rien du tout, mais c'est d'avoir fait une série de curls tous les 6 mois, elle perdait pas après à chaque fois en plus.
Mais ça, il y a deux choses, il y a des gens qui sont doués, qui prennent vite en musculation, mais là, c'est spécial, c'est que lui, il s'entraînait très léger et très en volume. Donc c'est même pas qu'il s'entraînait pas beaucoup, c'est qu'il avait une méthode totalement différente, en fait.
Ouais, non, mais de toute manière, il aurait utilisé une autre méthode, ça revenait à peu près au même, sauf qu'il se serait peut-être plus flingué les articulations qu'elle ne l'était, quoi. Mais c'est tout, sinon, après, qu'il utilise une méthode ou une autre, je suis pas sûr que ça ait changé grand-grand-chose. Mais c'est vrai que j'avais connu un mec comme ça, pareil, je sais plus où il est, du Cameroun ou je sais pas quoi. Le mec, il faisait beaucoup de séries sans trop forcer. Puis une fois, on s'était entraîné avec lui, on l'avait tué à l'entraînement. Mais j'ai pas l'impression qu'il gagne, tu vois. Il y en a qui gagnent pas à aller vraiment à fond dans chaque série, quoi. Mieux vaut faire du volume sans trop forcer. Après, ça dépend de chacun de ses prédispositions.
Donc c'était l'antithèse de Dorian Yates, alors Serge Nubray. Lui, Dorian Yates, il était fait pour faire pas beaucoup et fort.
Je suis pas sûr que Dorian Yates était fait pour faire pas beaucoup, mais pareil, peut-être qu'il aurait fait plus. Après, c'est ta mentalité qui joue plus que le muscle, parce que tu fais ce que tu aimes. Si le mec il aime s'entraîner en quelques secondes comme ça et puis terminer ou. Mais après, je suis pas sûr que le muscle, lui, il réponde pas, si au bout d'un moment, il réponde pas non plus à quel que soit l'entraînement. Quand il est là pour répondre, le muscle, je suis pas sûr qu'il y ait une méthode qui soit...
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, il est là pour répondre?
Ah non, mais quand le muscle, il y a des prédispositions génétiques du muscle, quand tu l'entraînes, il va répondre, quoi. Après, c'est ton mental. Si tu supportes pas de rester 2 heures à la salle... Mieux vous entraîner en haut, enfin entre guillemets, haute intensité, parce que comme ça au moins tu t'entraînes, quoi. Parce que c'est d'avoir la meilleure méthode du monde, si tu l'appliques pas, c'est ça le plus important, c'est déjà s'entraîner.
Donc ça, après pour finir sur l'actualité des pros en ce moment, il se passe autre chose?
Je sais pas, il y a pas mal de compètes, là il va y avoir une ce week-end avec un... Ben là, on va encore avoir l'air stupide parce que le podcast il va être après, une fois que les résultats vont être connus.
Tu veux faire un petit pronostic à la con?
Non, mais c'est même pas trop qui vient. Enfin si, pour le pronostic, il y avait qui c'est qui était dans les favoris. C'était le nouveau pro, là, je sais même plus comment il s'appelle, celui qui est un militaire. Un nouveau pro qui est militaire, c'est lui qui devrait gagner là. Cédric McMillan.
Ah ouais, c'est vrai, je vois qui c'est. Le black avec une petite moustache, là.
Ouais, mais on sait pas trop qui va aller dans la compète, donc... Mais enfin, il y a un live. Mais enfin, c'est trop tard maintenant, quand on va nous écouter.
C'est quand la compète? C'est samedi et dimanche?
Je crois que c'est vendredi, même.
Ah ouais, bah... Là, on met ça dimanche, donc... C'est sûr que ce sera trop tard.
Donc, plein de compètes, c'est surtout ça, l'actualité.
Donc, on va attaquer toutes les questions d'entraînement que tu as eues. Donc, on va commencer par celle qui turlupine un peu tout le monde. Que penses-tu des exercices de gainage? Donc pour développer les abdos, pour renforcer son dos.
Non mais c'est un peu ridicule, tous ceux qui parlent de ça. Les culturaux, ce qu'ils veulent, c'est des gros abdos déjà en priorité. En plus, on faut entraîner les muscles profonds. Quand je regarde les abdos, c'est pas très profond un abdo.
Non, mais on peut dire que le gainage, par exemple, entraîne le transverse.
Ouais, non, mais attends, tu l'entraînes, t'as pas besoin de l'entraîner spécifiquement. Ou tu fais des exercices comme dans le machin des abdos. Si tu veux entraîner le transverse, tu te mets le dos contre le mur, l'exercice qu'il y a dans le bouquin des abdos, puis t'en parles plus.
Mais donc tu penses pas que ça va... Parce que par exemple, souvent on dit que... Quand on entend souvent que le crunch, c'est l'autre exercice ou dynamique pour les abdos...
C'est pas naturel.
C'est pas naturel, ça favorise un peu les blessures.
C'est pas trop débile, ça. De toute manière, tant pis pour les gens qui écoutent ça, parce que c'est des mecs qui se disent, tiens, je vais aller voir ce qu'il y a à droite, à gauche, pour prendre ce qu'il y a de bon chez chacun. Mais tant pis pour eux, après, ils en tirent des conclusions à la noix. Parce que le mec qui a mal au dos parce qu'il se penche en avant, c'est qui? C'est pas les culturaux. Les culturaux, ils ont mal au dos parce qu'ils ont fait du soulevé de terre et du squat et ils ont le dos défoncé. Et qui c'est qui a mal en se penchant en avant sur sa chaise? C'est Pépé Mémé. Donc à partir du moment où... Ben non, c'est ça. Bon, à partir du moment où tu prends la philosophie pour Pépé Mémé et que tu l'appliques aux culturaux, ben tu l'as dans le cul. Allez voir à droite, à gauche, chez chacun pour en tirer le meilleur. Il y a plus de confusion à la fin que...
Bon, donc tu veux pas nous dire de faire du gainage, c'est pas bon.
Non, mais au-delà de l'aspect hypertrophié, est-ce qu'on peut pas dire que ça joue un rôle un peu prophylactique avec les blessures?
C'est complètement débile.
Tu penses que se gainer, par exemple, quand tu fais du hack squat, de gainer ton dos là-dessus, ça suffit pour... travailler ce gainage?
Bah, tu dis même. C'est quoi le qui va te tenir les abdos? C'est les lombaires, enfin qui va te tenir le dos? C'est les lombaires, c'est les obliques, un peu les abdos. C'est le fait que tu bloques ta respiration, que tu mettes ta ceinture, c'est des trucs comme ça. C'est pas d'avoir un peu de transverse qui va te sauver la vie. Hein. Non, c'est vraiment n'importe quoi. Disons, c'est vraiment des trucs de pour Pépé Mémé quoi. Alors les mecs, ils essaient d'appliquer ça aux culturistes, et puis ils comprennent plus, quoi.
Donc pour enchaîner un peu, comme tu as parlé du squat et du soulevé de terre, donc,
juste un truc quand même, pour revenir sur le gainage, il y a quand même un truc marrant, c'est que, dans mon cas, il n'y a pas de transfert entre la performance concentrique sur les abdos et le gainage. Je ne sais pas si tu as déjà essayé, Rudy, c'est-à-dire genre, tu ne fais pas de gainage pendant des mois, tu plein de crunch. Et après, tu t'essayes à faire du gainage, et en fait, au bout d'une minute, t'as déjà des abdos cramés. Alors même que tu faisais des abdos régulièrement en crunch auparavant. Tu vois ce que je veux dire, Michael?
Ouais, mais ça n'a rien à voir, c'est normal.
C'est un travail isométrique, c'est ça.
Là, c'est que tu restes contracté pendant une minute, alors que le crunch, tu restes pas contracté. Tiens, tu restes pas. Y a pas de phase de relâchement dans le gainage, quoi.
Le mec qui fait que. Tu fais, parce que toi, t'es surpris de ça, mais le mec qui ferait le contraire, qui fait que du gainage. Bah, au crunch, il serait nul.
Ouais, d'accord. Mais justement, alors, le fait qu'il n'y ait pas de transfert dans ces deux performances, est-ce que ça ne veut pas dire, justement, qu'il faut travailler ces deux capacités de façon spécifique, alors? Parce que s'il n'y avait pas besoin de faire du gainage, ça voudrait dire qu'en gros, le crunch se transférerait sur le gainage, mais le fait qu'il ne se transfère pas, est-ce que ça ne montre pas, justement, qu'on a un point faible assez en isométrique si on ne travaille pas le gainage?
Quel est l'intérêt de travailler ce soi-disant gainage? À part de dire, regardez,
j'ai plus ou moins répondu.
Je suis tout gainé de partout.
Moi, j'aurais pensé que ça aidait à maintenir une bonne position au squat ou à d'autres exercices, peut-être.
D'après moi, c'est trop léger pour la pression que tu vas mettre dessus.
Bon, bah d'accord.
Donc, pour enchaîner avec squat et soulevé de terre, donc tu as... Je ne sais plus qui sur le forum, qui te demande ton avis donc sur le West Side, un article qui est apparu sur Elite FTS, qui dit que il ne faut pas splitter son entraînement avant d'avoir fait deux fois son poids de corps au squat et au soulevé de terre. Et donc la question c'est quel niveau de force considères-tu comme n'étant plus débutant? Est-ce que par exemple faire deux fois son poids de corps au squat, on est plus débutant?
Ouais, non, mais pareil, là, on confond deux trucs, le powerlifting et le bodybuilding. Hein. Moi, ma spécialité, c'est le bodybuilding. Alors, on essaye d'avoir des conseils de bodybuilding qu'on applique au powerlifting, ça peut pas marcher.
Ouais, ben ça, je pense que c'est bien de le dire, parce que...
Ça paraît beaucoup, quand même, deux fois. Si le mec, il fait 100 kilos, il faudrait qu'il attende de faire 200 au squat.
Et surtout, si le mec, il fait 2 mètres, à mon avis, il sera bousillé avant d'atteindre les 200 au squat.
Donc, comment tu juges le niveau débutant, intermédiaire, confirmé, entre guillemets, Michael?
Ça veut rien dire du tout. C'est pareil, le mec, imagine un mec qui fait... sinon, tu prends un mec qui fait 100 kilos développé couché et un autre qui fait 200. Qui c'est le plus fort des deux?
Ah, ça dépend leur morphologie, ça dépend.
Oui, ça dépend de la longueur des bras. En powerlifting, on dit que c'est celui qui soulève le plus lourd. Le plus lourd, c'est le mec qui fait 200, bah, c'est le meilleur. Mais dans l'absolu, le mec qui a deux fois l'amplitude, s'il y en a un qui a 20 cm d'amplitude avec 200 au coucher et l'autre qui a 40 cm, il fait que 100, qui c'est le plus fort des deux, ça reste à déterminer. Donc, c'est toujours de déterminer le niveau de force. Ça, c'est un coup à finir avec une déchirure du pec.
Donc, on est bien d'accord, toutes ces conneries de... Ouais. Des chiffres à la con comme ça, c'est juste bon.
C'est bon pour remplir des articles, des pages de machin. Le mec, il se dit, ouais, je vais y arriver, le truc.
Mais c'est grosso modo pour donner une idée. Par exemple, comme quand on dit que à 42 bras, ça veut dire que tu commences à être pas mal, à peu près.
Ouais, de bras, le mec, il fait 2 mètres de long, puis l'autre, il fait 1 mètre.
Je suis d'accord, Michael, mais bon, la moyenne des gens, c'est 1m75. Ceux qui font 2 mètres, il n'y en a pas beaucoup. Donc, sur les 1000 lecteurs qui liront l'article, il y aura peut-être 10 personnes pour lesquelles ça ne s'appliquera pas, mais 1990 pour lesquelles ça va s'appliquer, tu vois.
Ouais, non, mais même de parler centimètres, c'est toujours...
Mais bon, pour revenir à ce truc-là du Westside, moi, je peux dire un truc, c'est que... Parce que Stuart McRobert, lui, il appliquait le truc-là spécifiquement pour le bodybuilding. Lui, il disait que ça servait à rien de faire des exercices d'isolation tant qu'on n'avait pas atteint le 300, 400, 500. Donc, c'était 300 pounds au développé couché, 400 au squat et 500 au soulevé de terre. Donc, ça faisait 130 kilos, 180 et 220. Et donc, moi, j'avais suivi ça au début. Et donc, je faisais très, très peu d'exercices d'isolation et je me concentrais sur le squat et le développé couché. Et donc, Rudy peut bien attester ce qui s'est passé. En fait, comme j'ai les membres longs et que au développé couché, moi, je prends rien dans les triceps, mais tout dans les épaules. Et pareil, même si je fais des tractions, je prends rien dans les biceps, etc. Et ma moralité, quoi, au bout de quelques années, même si ma force avait augmenté au squat et au couché, quoi, j'avais pas de bras du tout. Alors qu'effectivement, un mec qui était petit, lui, il aurait juste fait du coucher, du squat, etc. Puis il aurait suivi la philosophie McRobert, il aurait réussi à progresser à peu près partout. Mais moi, je me suis retrouvé tout déséquilibré.
Ouais, puis
à appliquer son conseil à la con.
Et avec mal au dos aussi, non?
Et avec un peu mal au dos à faire du full squat, ouais.
Ah ouais, c'est une petite façon.
Et donc là, le truc full split, ça me fait un peu penser à ça, quoi. C'est un peu pareil.
Je voudrais pas prêcher pour ma paroisse, mais moi, ça fait presque 30 ans que je fais de la muscu. J'ai eu des prix et des reconnaissances dans la profession quand même. De Lavier, je crois qu'on peut pas nier que ce soit le meilleur en anatomie morphologie. Donc, nous deux mis ensemble, on est quand même bien meilleurs que les autres. Et donc, ceux qui veulent aller chercher des renseignements ailleurs, tant pis pour eux.
Ah, je sens que t'es énervé ce soir.
Et, honnêtement, je m'en fous complètement que le mec il fasse de la chaise, des trucs. Mais il faut qu'il vienne se plaindre que ça marche pas, quoi.
Donc,
c'est ce que je dis.
Question suivante. Donc, tu recommandes souvent d'alterner les exercices à chaque séance, par exemple?
Ah non. Ça, c'est pour les gens avancés. Faut lire.
Donc, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, par exemple, ou même Jean-Denis, donc, qui pose la question, quand on change d'exercice, en fait, il nous faut un temps d'adaptation sur des exercices avant qu'on puisse avoir notre vrai niveau de force sur l'exercice, quoi. Donc, si on alterne à chaque séance, en fait, on est souvent paumé, quoi.
Ça veut dire que t'as pas intérêt d'alterner. Faut utiliser toujours la même chose dans ce cas-là. La réponse est simple. De toute manière, le culturisme, enfin le bodybuilding, c'est simple. Hein. il y a que tous les trucs parasitaires dont je parlais tout à l'heure et qui viennent embrouiller un truc très simple. Si te changer ça te va pas, il faut toujours faire la même chose, c'est tout.
Ouais, mais encore là, c'était différent ce qu'il disait, Michael. Il disait d'alterner, donc ça voulait dire genre une séance tu faisais coucher, la séance d'après tu faisais incliner, et voilà. La séance d'après tu refaisais coucher. Donc c'était ouais. Un peu comme. Il y en a un autre qui disait ça là.
C'est une petite alternance.
En fait, c'était la même chose que Docra.
Mais si à chaque fois tu progresses au coucher quand tu fais séance de coucher, t'as intérêt de continuer au coucher. C'est si t'as besoin de, par exemple, 2 semaines pour récupérer au coucher, soit tu peux attendre de faire tes 2 semaines, soit entre deux, t'intercales une séance ou de PEG d'isolation ou quelque chose, quoi. Donc, mais c'est pas super compliqué.
Donc pour continuer sur l'alternance, dans la méthode de la V2, donc c'est Patrick qui dit ça, qui dit que dans un des programmes, tu dis d'alterner un exercice biceps, alors je fais toutes mes séries de curl incliné, et ensuite je fais toutes mes séries d'extension nuque par exemple, et après je refais encore un exercice biceps, puis un autre triceps, et dans un autre programme, tu dis par exemple de faire par exemple les 2 exercices biceps, de les faire, et ensuite, une fois que tu as fini les biceps, seulement de faire les triceps. Donc ouais, quels sont les avantages et inconvénients des deux?
C'est pour montrer, là, dans les programmes, c'est pour montrer tout ce qui est possible de faire. L'avantage, enfin, un des gros avantages de faire biceps, triceps, c'est d'aller plus vite. Ça te fait gagner du temps. De faire toute ta série biceps après toute ta série triceps, l'avantage, et puis de repasser au biceps, l'avantage, c'est que ça prend un bon temps. Comme ça, tu as un meilleur temps de repos pour les biceps pendant que tu fais les triceps. Donc chacun a son avantage et puis tu prends la technique qui te convient le mieux. Mais dans les programmes, c'est pour montrer par chaque programme comment ce qu'il est les possibilités des choses qu'il est possible de faire quoi.
Et justement, plus un autre avantage de l'agoniste, en plus d'augmenter le temps de récupération, c'est aussi que, c'est toi qui l'avais dit, que le muscle agoniste il récupère plus vite quand on contracte l'autre pendant la phase de pause.
Voilà, après, ça dépend combien de temps tu peux te reposer, mais parce que après le muscle il aura mieux récupéré, mais par contre c'est le souffle qui va pêcher si tu vraiment parce que si t'as pas beaucoup de temps, tu peux faire biceps triceps en alternance, comme ça te permet de pas prendre de temps de repos entre tes séries. Bon bah là après c'est le souffle, c'est un peu du cardio après. Mais pour quelqu'un qui a pas beaucoup de temps pour s'entraîner, c'est une bonne
Voilà, mais même sans transformer en cardio, tu peux faire par exemple une série de curls, tu te reposes 1 minute 30,
oui.
Une série de triceps, 1 minute 30, et du coup, tu as eu 3 minutes entre tes biceps, voilà. Et tu as eu ta séance qui est relativement courte quand même.
C'est les avantages de chacun, mais il y a des gens qui vont pas apprécier que le recrutement moteur, il change. Ils vont perdre en efficacité de faire... un mouvement parasite entre 2 séries de biceps, par exemple.
Et c'est Rudy aussi disait que, par exemple, quand il faisait développer couché alterné avec traction, en fait, il avait le chiffon du triceps qui se contractait à la fois pendant les tractions et à la fois pendant le couché.
Ah ouais, là, c'est nickel.
Ouais, non, mais ça, c'est super.
Ça marche bien pour biceps-triceps, mais c'est vrai que pour le torse, c'est plus dur.
Si, ça pourrait marcher si tu fais du rowing et puis... à la rigueur, tu peux même faire un exercice de pec tu fais du câble ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que pour le triceps, la longue portion du triceps va travailler dans les 2 mouvements. Mais si ça te gêne pour du tirage barre fixe, tu fais du rowing avec les bras le plus possible le long du corps. Comme ça, il travaille un peu moins le triceps.
Donc, pour enchaîner encore, il y a quelqu'un qui nous demande ton avis des séries longues et légères pour sécher. Est-ce que tu penses qu'il faut faire des séries longues et très légères pour sécher?
L'avantage des séries longues et légères dans l'absolu, c'est que t'as pas besoin de beaucoup de temps pour récupérer. Donc, au lieu de faire des heures et des heures de cardio... qui vont du genre du vélo qui vont te flinguer les cuisses et te faire mal aux genoux, bah tu peux faire par exemple des séries d'abdos. La dépense calorique aura été la même, mais tu n'auras pas été sur ton vélo comme un imbécile. Ça te permettra de pas perdre de tes cuisses. Donc comme ça on peut faire de la série légère En plus, le gras tend à être mobilisé sur le muscle qui gigote. Donc, si tu fais toutes tes séries en abdos plutôt que faire du vélo, tu perdras un peu plus sur le ventre.
Ouais, mais là, c'était plus dans l'optique, je remplace mes séries lourdes par que du léger et du long, quoi.
Ouais, on remplace pas, c'est de l'ajout à la place du... Enfin, si tu remplaces ton cardio par les séries longues.
Et donc, si je veux sécher, si je prends la philosophie du mec, je garde mes séries lourdes quand même et je fais mon léger, en fait, pour faire du cardio.
Voilà, ouais, en gros...
Parce que si je remplace le lourd par du léger et long, qu'est-ce qui se passe, alors?
Ah non, ce qui se passe, c'est que le muscle va se barrer.
Même si tu travailles en synergie avec des chaises.
Je sais pas, hein. Faut travailler avec plusieurs, alors.
Mais ça, la réplique de merde. Oh putain. Donc ouais, donc quand on sèche, faut bien dire, faut garder son entraînement pratiquement tel quel, quoi. Si on commence à s'amuser à faire que du léger et du long.
Non, mais par contre, tu t'ajoutes, ça t'ajoute, parce que c'est pas pour la récupération, c'est pas très très difficile. Enfin, pour le système nerveux, c'est plus facile de récupérer de ça que.
Je suis quand même sceptique sur la dépense calorique induite par des séries longues de crunch par rapport à aller courir ou faire du vélo.
T'as qu'à faire des séries de 100, 200, 300. Comme là, une fois, tu vois, il y avait un adepte de la méthode Nubray où j'étais en train de faire des abdos. Et puis il me dit, ouais, tiens, tu fais des abdos avec moi. Alors on faisait des espèces de crunch avec les mains tendues en avant pour aider. Alors, je lui dis, mais on fait combien de reps? Ah, on en fait 700 ou 1000. Bah, t'as qu'à essayer de faire 1000 crunch.
Ah, tu te fais chier?
Et tu fais 1000, essaie de faire 1000 crunch comme ça non-stop, tu vas voir. Tu vas voir si ta dépense calorique, ce qu'elle en pense. En vélo, ce qui dépense les calories quand tu fais du vélo, c'est quoi? Je vous la pose la question.
Bah, c'est le travail musculaire du cuisse.
Non, mais déjà, c'est le cœur qui monte un peu dans les tours. Hein. Mais...
Bon, bah, vous avez rien compris, c'est juste le gâchis de chaleur. La contraction musculaire, elle est assez économe en calories. C'est un peu comme le moteur d'une voiture. Le moteur, enfin, comment une voiture, elle nous fait avancer, mais le moteur, il chauffe aussi. Et toute la chaleur du moteur ou d'une ampoule, par exemple, si on la prend, ça chauffe beaucoup. Enfin, les anciennes ampoules, maintenant, je crois qu'elles chauffent moins. Et justement, c'est pour ça qu'elles sont plus économiques, c'est qu'il y a une grosse perte. La grosse perte d'énergie, c'est par la chaleur. Et quand on fait du cardio, c'est pas le mouvement qui fait tellement brûler les calories, c'est que de faire fonctionner les muscles, il y a une grosse perte d'énergie sous forme de chaleur. Donc il faut retrouver cette perte de chaleur en faisant des crunchs.
Et aller au sauna alors ?
Ah non, parce que l'énergie, enfin la chaleur, elle vient de l'extérieur. Ce serait comme de mettre un kawaii, ton énergie, enfin ta chaleur corporelle, elle monterait, mais ce serait artificiel.
Donc, on va faire des abdos pour sécher.
Voilà, oui. 100 mètres de kawaii.
Ouais, oui. Ah bah après, tu peux mettre un kawaii si tu veux pour transpirer plus.
Donc, pour enchaîner encore, c'est une des dernières questions d'entraînement. Donc, l'importance des courbatures dans le muscle, dont on a souvent parlé, mais là, c'était pour... c'est des fois, t'as des mecs, en fait, qui ont beaucoup de courbatures au pec, et qui, malheureusement, prennent pas de pec, mais prennent, justement, des muscles qui n'ont pas de courbatures, comme les triceps sous les épaules.
Ah, enfin... Les courbatures au pec, c'est souvent dû au fait que le mec qui descend trop loin sa barre, et puis il s'arrache lentement la jonction du tendon muscle au niveau de l'épaule. C'est ça qui lui donne ses courbatures. C'est peu probable que ce soit des courbatures qui soient bien localisées.
Oui, moi j'ai le cas, je les ai, les courbatures. Elles sont juste entre le deltoïde antérieur et le pectoral. Et quand je fais du coucher, j'ai des courbatures comme ça pendant au moins 5 jours.
Ah ouais, bah
mais au centre du pec, j'ai que dalle. Hein. Y a rien du tout.
T'as juste arraché un peu le tendon, c'est tout.
C'est pour ça que j'en fais plus.
Ah non, mais tu pourrais descendre moins bas.
Descendre moins bas, c'est chiant.
Ah bah, psychologiquement.
Je fais à quatre paires maintenant.
Psychologiquement, on se dit, oh là là, je fais pas le mouvement complet, etc. Mais c'est complètement débile de faire le mouvement complet.
Et puis c'est aussi que des fois c'est pas facile, comment dire. Si tu fais pas le mouvement complet, t'es pas sûr de à chaque fois de le faire à la même amplitude de séance en séance.
Soit tu mets un truc sur la barre, soit tu te mets une serviette sur les pecs.
Ouais, bah une grosse serviette alors.
Ouais, non mais une grosse serviette que tu replies, ou sinon tu sais, tu mets les mousses là qui isolent les tuyaux. T'en mets deux mousses sur toi et comme ça tu descends tout le temps pareil. Ou les mecs ils mettent alors les powerlifters, soit ils utilisent un annuaire, ce qui est mieux, soit ils utilisent des planches.
Ouais, j'ai vu, mais la planche, faut que t'aies un gugus qui vienne te la tenir, sinon ça tient pas, ça tombe.
Ah ouais, ouais. Non, mais c'est pour ça que Delavier, il avait pensé à un truc avec du velcro. Là, tu t'accroches, tu te mets une combinaison avec du velcro sur lequel tu mets ton annuaire. L'annuaire, c'est quand même mieux que la planche, parce que elle amortit un peu le choc, alors que la planche, tu prends tout dans la
cage. Donc, pour étendre la question, est-ce que ce serait possible d'avoir un muscle qui grossit sans qu'il ait jamais de courbature?
Bah, le problème des courbatures, c'est qu'on les sent pas toujours. Hein. Je sais pas si j'avais raconté une fois ici, j'avais fait les dorsaux. Après, je vais me coucher. Je me réveille quelques heures plus tard, j'avais des courbatures de folie dans le dos. Alors je me dis, oh là, ça va être une semaine pour que ça se barre, ce truc-là. Je me rendors quelques heures, je me réveille, plus rien. Et en travaillant avec l'électrostimulation, on s'aperçoit aussi que en envoyant un petit courant dans le muscle, t'as l'impression qu'il est pas courbaturé, mais en envoyant un peu d'électricité dedans, t'aperçois que le muscle est très courbaturé, mais tu le sens pas. Donc le problème de la courbature, c'est qu'elle est pas facile à déceler. Donc sinon, tu te fais masser. Quelqu'un qui te masse, par exemple, quelqu'un qui te masse fortement l'infra-épineux, tu vas voir, la plupart des gens, ils vont avoir mal. Alors qu'ils sentent rien comme ça.
Donc, pour continuer, donc, Delavier, récemment, tu as mis une vidéo de Delavier où il parle des pathologies d'épaule. Et donc, tu as Rémi qui demande quels sont les muscles impliqués lors du syndrome de l'accrochage.
Ah, faudra lui demander à lui, là.
C'est Fabrice, ça.
De quoi?
Il appuie sur le clavier. On entend un clavier qui...
Ah oui, je note le résumé. Je savais pas que vous entendiez.
On entend que ça, même.
Ah, oh, le boulet.
Je note le résumé des questions.
En fait, la réponse qu'il donnait, c'était de travailler, je crois que c'est le subscapulaire, ou enfin le muscle qui est devant. Oui, le subscapulaire, ouais, c'est ça. C'était de travailler le subscapulaire en faisant... La résistance, elle vient de derrière, un câble, un câble qui est monté à trois quarts de sa hauteur. On tourne le dos au câble, on a le bras levé au niveau de l'épaule, mais plié à 90 degrés et on penche en avant. Enfin, faut regarder la vidéo, il montre, mais au moment où il explique, c'est la résistance vient de l'arrière. Pour travailler le subscapulaire. Sinon, on peut faire le mouvement de l'autostoppeur, mais à l'envers. C'est-à-dire que, au lieu d'envoyer, que la résistance, elle soit sur le côté opposé ou du mouvement, elle est du même côté, et tu ramènes, le point, vers toi. Donc, c'est moi ce que j'appelle des mouvements aussi pour travailler
que tu faisais un peu pour le grand rond.
Voilà, le grand rond, je cherchais.
Parce que là, on le fait avec le coup de collet, en fait, au corps.
Voilà.
Pour travailler le subscap.
Ouais. Okay. Après, faut demander précisément à Delavier pour les précisions techniques, ce sera lui qui va les donner.
Donc, il y a Archimède qui te demande l'influence de l'âge sur l'entraînement.
De l'âge, bah, elle est pas bonne, hein. Passer 25 ans.
25 ans, tu commences à te décliner, ça y est?
5-30 ans, bah, Palumbo, il dit toujours que pour les culturaux qui font de la compétition, c'est à peu près vers 30 et quelques années qu'ils sont au mieux. Donc ça veut dire qu'après, tu commences à décliner, quoi, 35 ans. Bah, tu le vois, là, les gars, ils commencent à tirer, et quand ils s'approchent de la quarantaine, ils commencent à tirer
attirer. Bon, là, c'est un mauvais exemple, parce que est-ce que ça veut dire que c'est les 20 ans de drogue qui font qu'ils sont fatigués, ou est-ce que c'est vraiment l'âge en tant que tel? Si, justement, moi, je trouve qu'en muscu, c'est un des seuls, c'est une des seuls sports, entre guillemets, où tu peux avoir des mecs qui sont bons après même 40 ans, tu vois. Genre, par exemple, en course de vitesse ou des choses comme ça, les mecs, ils sont grillés très rapidement, alors que tu vois des cultos, genre, si on prend les Masters Olympia, il y a des gars qui, à 45 ans et tout, ils sont vachement bien.
Ah, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ils sont quand même moins bien que avant. Non, mais le pic, je pense que le pic, pour tout le monde, effectivement, c'est à peu près entre 20 et 30 ans. Moi, j'ai commencé à sentir que la testo, elle déclinait après 25 ans, ouais.
Donc ouais, Archimède demandait en gros l'impact sur l'entraînement, quoi. Est-ce que tu diminues le volume, est-ce que tu fais moins lourd?
Bah, t'as vu, on en parlait et puis ils ont donné un peu la réponse. C'est dans les vidéos, j'avais mis le lien Vix Corner. Là. Ils parlaient avec Boyorko et ils disaient que bon, ils avaient 50 les gars, mais qu'ils ne congestionnaient plus du tout, pratiquement. À leur âge, quoi.
Donc là, t'es condamné pratiquement à faire que du lourd, quoi. Si tu congestionnes plus, tu peux plus jouer là-dessus.
Malgré le... Bah, tu peux faire semblant, je veux dire, t'es pas obligé du lourd. De toute manière, les articulations, elles vont pas forcément te permettre de faire du lourd.
Ouais, donc ça congestionne plus, si t'as pas de force, qu'est-ce que tu fous, alors?
Bah, t'essayes d'entretenir à peu près ce que t'as acquis. T'as acquis jusque-là, c'est pour ça que t'as intérêt à en avoir acquis le maximum, quoi.
Est-ce qu'il y aurait des compléments alimentaires qui seraient plus adaptés pour les personnes de cet âge-là, justement?
Pas plus, pas moins, je sais pas. Après, faut voir. Je suis pas sûr qu'il y ait des trucs qui soient... Mais c'est sûr qu'on m'avait dit qu'il y avait des trucs qui marchaient pas avant et qui commençaient à marcher, du genre... l'acide alpha-lipoïque ou des trucs comme ça. Ça marche mieux après 50 ans. Ça veut dire que tu t'es tellement dégradé que des trucs qui marchaient pas avant se mettent à marcher.
Ah, c'est rassurant tout ça.
Maintenant, le vieillissement, c'est quoi? Tu verras que ta peau, elle commence à se rider, que tes cheveux, ils commencent à devenir un peu blancs. Il y a que Berlusconi. Eh ouais, en plus, il y a que Berlusconi qui a des cheveux impeccables malgré son âge avancé.
Donc, on va attaquer un peu les questions de diète. Donc, c'est juste... Des trucs qu'on entend un peu partout. Faut-il manger toutes les 3 heures?
Bah, ça dépend. Déjà, si tu peux ou si tu ne peux pas, ça dépend ce que tu as mangé les 3 heures avant. Parce que plus tu vas manger, plus tu peux espacer tes repas.
Y a pas de règles, en fait, ou il y a des règles à suivre là-dessus?
Mieux vaut manger 2 fois par jour qu'une fois. Mieux vaut manger 3 fois par jour que 2 fois.
Et mieux vaut manger 6 fois que 3 fois?
Bah ouais, comme ça, ça te fait des plus petits repas.
Mais c'est juste, il n'y a pas l'histoire des protéines toutes les 3 heures, etc.
Bah,
c'est un mythe, ça, ou c'est pas un mythe?
Bah c'est, il y a pas, c'est un mythe parce que comme on n'a pas beaucoup de données là-dessus, les mecs ont brodé sur des trucs qui n'existaient pas, donc parce que je connais aucune étude qui a été faite sur le. L'histoire de pouvoir digérer 10 grammes par heure, quoi.
Bah, c'était pas que la digestion, c'était le fait que quand tu prends du sucre, tu peux le stocker en graisse dans le corps, alors qu'en fait, les protéines, c'est le seul truc que tu peux pas stocker. Et donc, c'était ça qui justifiait qu'il fallait en prendre souvent aussi.
Ici, tu t'en stockes quand même des protéines sous forme d'albumine. Il y a quand même un peu d'acide aminé. Bah, tu sais, un truc qui est étonnant... Tu sais combien de grammes de sucre on a dans le sang en permanence?
Non, je ne sais pas.
Bah, donne un chiffre.
Redis.
Ah, putain, t'as moins de mouiller, alors. Combien de grammes de sucre?
Ouais, on a dans le sang.
Dans tout le sang confondu, alors. Putain,
ouais,
c'est
ouais.
Un paquet. Hein.
C'est pareil, c'est une moyenne, parce
allez,
que...
Allez, je dis 500.
Ouais. Et si je te dis 3?
3 grammes par litre ou 3 grammes?
Oh, 3 grammes. 3 grammes de... le corps essaie de maintenir 3 grammes. C'est pour ça qu'il envoie de l'insuline quand il y a trop de...
3 grammes, putain, ça vaut rien.
Non, c'est rien du tout.
Ah ouais, c'est...
Tu vois un Coca-Cola où il y a déjà 11 grammes pour 100 grammes.
Je veux dire que le cerveau, ça lui fait... Il danse la Java hein, quand il voit arriver le Coca-Cola.
Ah donc on va manger que 3 grammes de sucre à chaque fois, 3 grammes de sucre.
Et c'est pas ça, non, mais après le corps, c'est ça qu'il envoie de l'insuline pour se débarrasser du sucre qu'il a dans le sang. Mais je suis sûr qu'on a plus de protéines, de grammes de protéines que de grammes de... Comment
de glucides.
Ouais, de glucides stockés dans le sang.
Et alors, il y a le Warrior Dress qui dit de manger une fois par jour.
Ah, le mec, il fait ce qu'il veut. Enfin, ça me semble...
Tu n'es pas pour le Warrior Dress.
Ça me semble difficilement justifiable. Hein. Pour un culturo, en tout cas.
Donc, mieux vaut manger régulièrement sur la journée que beaucoup d'un coup.
Bah, plus tu vas manger d'un coup, moins c'est bon quand même. Donc, par défaut... Surtout si tu dois manger beaucoup, quoi. Un culturo, disons, le gars, il se dit, tiens, faut que je mange 4000 calories par jour. Si t'es obligé de te les taper sur un ou deux repas, c'est un peu hard.
Ouais, mais si t'y arrives, est-ce que c'est mieux ou moins bien?
Moi, je dirais qu'il faut mieux quand même étaler. Faut au moins faire 4 repas, quoi. Non. Ça fait 1000 calories par repas, c'est mieux qu'un repas à 2000 calories. Après, tu dois te sentir un peu lourd, hein.
Ouais, bah c'est sûr.
Et puis après, il y a les histoires de régime. Quand t'es au régime, mieux vaut multiplier les repas parce que comme t'as tout le temps faim, au moins t'as l'impression de manger un petit quelque chose, quoi.
Donc pareil.
C'est marrant, Michael, dans toutes les justifications aux questions, il y a beaucoup d'aspects psychologiques finalement dans tes réponses. C'est-à-dire que la méthode d'entraînement, c'est finalement, il y a certes peut-être un optimum, mais faut faire un peu ce qu'on aime pour tenir sur la durée. Sur la bouffe, là, c'est pareil. Le but du jeu, c'est de pas avoir faim, donc on mange plus, etc.
C'est obligé, sinon c'est pour ça que les mecs, ils craquent. Alors combien il y en a qui vont arrêter de s'entraîner quand t'as un programme qui est nouveau, t'es content de t'entraîner, etc. Puis au bout d'un moment, tu te dis, voilà, oh c'est toujours la même chose, c'est machin. C'est comme une musique, hein. Au début, tu l'aimes, et puis après, t'en as marre. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu changes de musique. Hein. Force toujours. Si on a toujours écouté la même musique, la musique que t'aimais avant, tu la détestes. Donc, ça se conclut comment en muscu? C'est que t'arrêtes de t'entraîner. La plupart des gens, faudrait faire des statistiques, mais je suis sûr que les trois quarts des mecs qui commencent la muscu, ils arrêtent assez rapidement. Bah, y a qu'à regarder le bon coin. Hein. Tous les mecs qui vendent leur matos, c'est quoi
C'est des gens qui ont acheté la méthode avec les chaînes, hein, peut-être.
Ah non, là, c'est les mecs qui ont acheté la méthode avec des haltères, parce que jusque-là, on a vu qu'un qui a vendu des chaises de muscu.
Donc, pareil, il y avait une autre question qui est... Que penser du catabolisme nocturne? Faut-il prendre des protéines lentes avant de dormir?
Ça me semble préférable, mais moi j'ai un copain qui est spécialiste d'aération dans le bâtiment et il dit que la tuyauterie se repose au milieu de la nuit et c'est vrai qu'on n'a pas été non plus fait pour manger la nuit, donc pour la santé, le mieux c'est d'être à jeun un certain temps la nuit. Et pour le bodybuilding, le mec qui essaye c'est surtout le mec qui essaye de gagner du muscle, quoi.
Mieux vaut manger avant de dormir, quoi.
Bah, non, mais le problème c'est que le gars qui essaye de se taper, 200-300 grammes de protéines, s'il peut rajouter un ou deux repas la nuit, c'est autant de ça de gagner, de facilité de prise de l'aliment. Je sais pas si je me fais bien comprendre.
Ben non, c'est contradictoire avec ce que tu viens de dire, qu'il fallait pas se réveiller la nuit.
Non, de quoi? Non, mais de manger avant de s'endormir ou de si le gars il peut rajouter un repas la nuit, c'est toujours ça de gagner pour sa prise entre guillemets masse.
Donc la réponse est oui. Faut manger des protéines lentes avant de dormir.
C'est mieux, surtout si t'essaies de gagner du poids. Par contre, c'est sûr que si t'essaies de maigrir, faut rester le plus longtemps possible sans manger.
Ouais, mais t'as plus de chances de sacrifier du muscle si tu prends pas t'es au régime et que tu prends rien avant de dormir.
De toute manière, si tu veux pas sacrifier du muscle, tu te mets pas au régime. Hein. C'est pas...
Ah là là, c'est pas très clair.
Non, c'est clair que...
C'est clair que si tu fais un régime, en fait, tu perds du muscle. C'est ça que la plupart comprennent pas, c'est que quand tu te mets au régime, moi je vois, tu vois, dans le coaching, en fait, c'est que quand tu démarres un régime, tu dis, je veux en perdre le moins possible de muscle. Mais le problème, c'est que t'en perds forcément, et c'est pratiquement indépendant de ta volonté, même si t'as la meilleure diète du monde, qui t'est le plus adapté, forcément tu lâches du muscle, quoi.
Parce que déjà, quoi que t'as du mal à en prendre en mangeant de trop, alors faudrait qu'en mangeant moins, en mangeant trop, t'arrives pas à prendre de muscle. Et comme par miracle, en mangeant moins, ça viendrait. Ben non. C'est pour ça, tu regardes les pros, déjà, malgré les produits, les machins, la génétique, les mecs, ils perdent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il y a qu'en France, où les mecs, ils savent comment sécher sans perdre de muscles. Puis c'est pour ça qu'on on a quasiment pas de pros en France, d'ailleurs. Parce qu'ils ont le secret, mais ils ont du mal à l'appliquer, visiblement. Mais tu vois, les photos diètes dans son bouquin, quelques semaines de régime, pour sécher un tout petit peu, il perd énormément de muscles.
Ouais, mais de toute façon, moi, c'est ce que j'ai vu avec le régime, hein, c'est que tout de suite, tu sacrifies beaucoup. Et heureusement qu'après, tu remanges pour regonfler un peu, parce que sinon...
Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi, quand tu te mets au régime, tout de suite, tu diminues les glucides, et donc tu fais moins de rétention d'eau, et donc du coup, tes mensurations, elles fondent, mais c'était, je sais pas comment dire, c'était pas forcément du vrai muscle, enfin, tu vois ce que je veux dire.
C'est au début, ça. Il y a une perte un peu artificielle, mais à terme, de toute manière, t'as moins de force à l'entraînement, t'as plus de mal à récupérer. Ton système hormonal il se casse la gueule et puis il se met à tourner à l'économie. De toute façon, dès qu'il y a plus de calories, le premier poste d'économie qu'il fait, c'est sur l'anabolisme. Donc même si tu catabolisais pas, disons que tu renouvelles 1 kg de muscle par jour, au lieu de renouveler 1 kg, tu vas renouveler que 500 grammes.
Donc, Michael, tu ne crois pas à l'expérience qu'a fait Arthur Jones sur... tiens, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus.
C'est Casebiator.
Sur Casebiator, qui avait réussi en un mois à la fois prendre du muscle et perdre énormément de gras grâce aux machines et à son entraînement à très haute intensité.
Oui, j'y crois parce que je regarde les photos et il est sec avant, il est gras après, contrairement à ce que...
je lisais les photos. Avant, il est maigre et après, il est énorme.
Oui, d'accord, mais il est beaucoup plus gras après qu'avant. Regarde bien. Regarde son tour de taille. Il est beaucoup plus gros. Avant, il pouvait pas perdre de graisse. Il avait quasiment plus rien quand il débutait au début de l'expérience. Il avait quasiment plus de graisse. Si t'en vois, tu me le dis. Il était sec. Et me dis pas qu'il est encore plus sec. Quand au final, il a gagné du gras. Il a gagné du gras, de l'eau, etc. Parce qu'il était payé au kilo gagné. Ah non, c'est vrai, il était payé au kilo gagné. Donc, il a dû se mettre au régime à fond les gamelles pour perdre le maximum de poids avant de commencer. Et puis après, évidemment, il a commencé à remanger, etc.
Il
était blessé bien avant. Avant, d'après moi, il s'est mis au régime pour être bien sec, pour cataboliser un maximum. Bah attends, si toi je te dis, par kilo gagné, je te donne 10 000 euros. Qu'est-ce que tu vas faire?
Oui, non, mais je sais ce que tu veux dire, mais bon.
Ah oui, c'est ça, c'est comme ça.
J'ai jamais vu ça.
C'est comme ça que ça s'est passé. Il est plus gras au retour, enfin, je veux dire, après qu'avant. Contrairement à ce qu'ils veulent bien nous dire.
Bon, je pense que nous avons fait le tour pour aujourd'hui. On était plus rapide que d'habitude. Un miracle. C'est un miracle.
Il faut parler d'un truc rigolo maintenant qu'on est trois.
C'est quoi ça?
Je sais pas, t'as pas une anecdote liée au sexe et au bodybuilding, comme tu le sors à chaque fois?
L'histoire qui est arrivée, au truc, là, l'anniversaire d'une star du X, il y avait le mec de Haute Vidéo qui dit à tout le monde, allez, venez faire la photo, venez. Et puis il dit, allez monsieur Lafay, vous êtes là pour la photo. J'ai rencontré
Olivier Lafay, Michael.
Non, j'ai rencontré, il s'appelle pas du tout Olivier. c'est un people, c'est un des papes du porno en France. Alors j'aurais préféré rencontrer Dorcel, ça aurait été un people encore plus. C'est toujours bien d'avoir des people sur son Facebook. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire une photo avec Lafay, quoi.
Ah, bah c'est peut-être pour ça que sur Amazon, quand tu tapes méthode Lafay, tu tombes sur des livres sur la sodomie et tout ça. C'est peut-être lié à ton monsieur Lafay qui fait des livres, non, qui fait des trucs coca.
Oh, je crois pas. Non, mais je savais qu'il y ait... La première fois que j'ai vu le truc, tu sais, c'était quand on avait été au salon, là, ensemble. Tu sais, on avait été au salon.
Oui, ouais.
Et là, il y avait un
stage sur le site.
Non, mais il y avait un stand, Lafay, etc. Je sais pas, tu te souviens?
Ouais, moi, je me souviens, ouais.
Il y avait un gros stand de Lafay, c'est là que j'ai...
Ouais, avec une bannière bleue, avec un peu de jaune ou d'orange.
Ouais, je sais plus exactement, j'avais mis la photo. C'est là que j'avais vu que Lafay était un des papes du porno. Alors j'étais surpris quand le mec il a dit Monsieur Lafay venez là. Je me suis dit tiens je vais faire une photo avec. Ouais, c'est bien d'avoir, j'aime bien avoir les people sur mon Facebook. C'est toujours sympa.
Alors il paraît que sur ton Facebook il y en a qui ont confondu. Ils ont cru que t'avais rencontré l'homme aux deux chaises.
Non mais j'ai jamais dit. J'ai jamais dit ça, hein. Moi, je pensais que les mecs allaient connaître, mais je suis un peu déçu que... Mais c'est vrai que ça aurait été Dorcel, les mecs, je pense qu'ils auraient plus... Enfin, c'est pour ça qu'après, il y avait un hardeur, ils se demandaient, mais quel est le rapport entre Lafay et la musculation, quoi. Ils comprenaient pas, le mec. Et ils peuvent pas comprendre que le mec, il est tout petit, tout maigre... Et pas sportif pour un sou, quoi. C'est l'anecdote.
Tu insinues quelque chose?
Mais le mec, il se demandait pourquoi... Parce que tout le monde, dans le milieu du X, tout le monde connaît Lafay. Donc il se demandait vraiment quel était le rapport entre Lafay et la muscu, quoi. Le mec, il peut pas comprendre.
Bon...
Certains se sont fourvoyés là-dedans.
Ce sera donc le mot de la fin pour ce petit podcast à retrouver donc dimanche. Donc encore merci à toi Michael pour toutes ces réponses aux questions. J'espère que ça va plaire encore une fois. Et donc merci à Fabrice pour toutes... Ces questions déconnades.
Bah non, alors on est soft, on l'a chauffé au fur et à mesure de mes participations.
Ça roule, donc bonne lecture à tous et
bonne écoute.
Ah, parce que j'ai dit lecture, ça n'a plus sur play.
Allez, salut.
Salut.